Il était une fois l'histoire de la directrice financière du meilleur zoo d'Europe. Un lieu où vous pouvez parcourir les 5 continents en une journée, où vous pouvez vous endormir avec les loups et vous réveiller près des ours blancs. Je parle évidemment de Paradisa, le parc animalier situé à Brugelette en Wallonie, qui ne cesse de croître et de s'embellir sous l'impulsion d'Éric Don, son créateur. J'accueille aujourd'hui la CFO Julie Mélis pour discuter de son métier de directrice financière, de ce que c'est de travailler chez Paradisa, mais aussi de son rôle de manager d'équipe. Bienvenue sur Once Upon a Business, le podcast qui explore les stratégies business et les retours d'expérience des experts financiers. Je m'appelle Laurie et j'anime cet épisode pour Once Upon a Business, un podcast créé par Emasphere, plateforme SaaS de reporting pour les financiers. Avec ce podcast, nous vous proposons un condensé des parcours de femmes et d'hommes qui osent, apprentissage, conseils et même morale de leur histoire. Si vous restez jusqu'à la fin, vous saurez tout. Bonjour Julie.
Bonjour Laurie.
Merci d'avoir accepté mon invitation et donc de te joindre à moi aujourd'hui donc sur le podcast Once Upon a Business. Alors Julie, tu es la CFO de Paradisa et donc j'aimerais que tu prennes le temps de nous expliquer ton parcours, de nous dire qui tu es, donc te présenter à nos auditeurs.
Avec plaisir. Je suis une jeune femme de bientôt 50 ans. Je suis une maman de 3 enfants. Ce que je dirais, c'est que j'ai suivi des études d'ingénieur commercial à Mons. Et après mes études, j'ai eu l'occasion de commencer ma carrière dans un gros cabinet d'audit, PricewaterhouseCoopers, où là, j'ai travaillé pendant 9 ans. En audit financier j'ai eu l'occasion de principalement m'occuper du secteur des assurances avec des équipes tournantes et ça m'a appris tout ce qui est l'aspect de gestion des risques, d'identification et d'analyse des risques. Ensuite, j'ai voulu passer de l'autre côté de la barrière et m'orienter vers un job beaucoup plus opérationnel et donc au sein d'une entreprise pendant toute une année. Et là, j'ai été engagée par une grosse société américaine localisée à Feluy, Dow Corning, qui est active dans l'industrie chimique du silicone, où là, j'ai eu un rôle européen de directeur financier européen. Ça m'a permis de voyager dans pas mal de pays européens et d'avoir des collègues et des gens qui me rapportaient qui étaient dans les différents pays et donc avec des cultures très différentes. Et c'était là une société américaine d'une toute grosse taille, donc implantée également aux États-Unis et en Asie, où il y avait 11 000 personnes. Donc là, c'est vraiment la toute grosse société. Et là, je m'occupais principalement de tout ce qui était compte financier et donc l'établissement vraiment dans les différents pays des comptes annuels et de procéder à l'audit auprès des réviseurs d'entreprises locaux. Et j'assistais également dans le cas de contrôles fiscaux dans les différents pays. Et ensuite, j'ai eu l'occasion de travailler pour Paradisa, où là, c'est une société avec une taille humaine beaucoup plus petite, mais qui a beaucoup de points positifs également, et de retrouver, comme c'était le cas dans l'entreprise américaine, la gestion d'une équipe entre 7 à 12 personnes.
Et dis-moi, comment est-ce que tu es devenue CFO de Paradisa? Comment les choses se sont-elles déroulées?
Alors, au niveau de l'entreprise américaine, il y a eu une délocalisation vers les Pays-Bas et donc mon rôle ici en Belgique a été supprimé. Et donc là, j'ai cherché une autre opportunité et je dois dire que j'ai eu l'occasion de rencontrer Éric Dombes grâce au réseau que j'avais. Et donc, c'est un entretien qui s'est bien déroulé. On a échangé et finalement, j'ai pu avoir ce poste.
Et c'est super. En fait, donc entre travailler pour une très grande entreprise et une plus petite structure, comme tu l'expliques, on se demande quand même qu'est-ce que ça a pu t'apporter et quelles sont les différences notables que tu peux nous décrire.
Alors, je trouve que c'était vraiment une très bonne expérience qui m'a apporté beaucoup. Et je pense aussi avoir été chanceuse d'avoir d'abord expérimenté le rôle de directeur financier et d'être employée dans une grosse structure avant de passer à une plus petite structure. Donc, dans une grande entreprise, et ici, c'était une société avec plus de 11 000 personnes, ce qui était très intéressant, c'était toute la structure, toutes les procédures, les comités d'audit, les chartes de gouvernance qui étaient mises en place. Donc, j'ai vu énormément, j'ai vraiment vu une société qui avait beaucoup de moyens, hein, faut bien le reconnaître aussi, qui excellait en matière de procédures, de structures et de contrôles à mettre en place. Et donc, c'est vrai que quand j'ai travaillé dans cette société, j'ai appris énormément, j'ai vu beaucoup de choses, mais pour moi, après, ça me semblait évident de structurer les choses comme ça, que tout soit un peu carré comme ça, quand on passait d'un rôle à un autre, tout était organisé, les accès étaient supprimés, les procédures étaient modifiées, etc. Ça me semblait normal. Mais donc, c'est très positif d'avoir pu voir tout ça mis en place. Ben après, on passe à une structure d'une taille plus petite, mais qui veut dire aussi qu'il y a sans doute moins de moyens aussi. Et donc là, évidemment, c'est un peu déstabilisant au départ, parce que tout ça n'existe pas et donc il faut le construire. Ça, c'est vraiment l'intérêt, évidemment, d'apporter cette valeur ajoutée et de mettre en place petit à petit les choses importantes. Encore une fois, je suis très contente d'avoir eu la première expérience dans une grande entreprise pour pouvoir apporter quelque chose et mettre de la structure sur une plus petite structure.
Et donc, tu conseillerais ce type de parcours aux jeunes financiers qui désirent devenir un jour CFO ou peut-être
non ? Tout à fait. Et donc, il y a deux choses pour moi qui, je pense, sont très importantes et qui m'ont permis vraiment d'acquérir des expériences et d'une vision aussi. C'est d'abord d'être passé par l'audit où là, on avait une optique où on n'avait pas le temps et donc il fallait vraiment aller droit au but et il fallait identifier les risques et se concentrer là-dessus. Et donc ça, c'est vraiment une technique qui m'a été donnée, inculquée lors de mon passage chez Pricewaterhouse. Et alors après, ben, le fait de travailler pour une grande entreprise, où là, il y a beaucoup de process, tout est structuré, tout est organisé, ben, ça permet aussi d'avoir une vision de quelle est la Rolls-Royce et vers quoi il faut aller pour qu'on limite les risques au maximum ou qu'on soit efficace au maximum au niveau opérationnel aussi. Hein. Il y a les deux aspects.
Bien sûr. Et donc aujourd'hui, tu travailles chez Peridaisa. Pourquoi est-ce que tu aimes travailler pour Peridaisa ? Qu'est-ce qui fait que c'est une entreprise où il fait bon vivre ? J'aimerais que tu nous parles un petit peu de la culture d'entreprise de chez Peridaisa.
Alors effectivement, aujourd'hui, travailler pour Peridaisa, c'est vraiment très agréable. Je dois dire que j'ai découvert une société où évidemment l'environnement de travail est magnifique. Hein. C'est notre jardin des mondes est superbe et pouvoir y passer le temps de midi, c'est vraiment très agréable. Mais alors, je pense que je ne m'attendais pas à ça quand j'ai été engagée. Mais la culture d'entreprise est vraiment très positive. Donc, les gens qui y travaillent, ils sont passionnés. Et donc, ils aiment le parc et ils veulent tous, à leur niveau, que le visiteur passe une journée agréable. Il y a bien sûr toute l'équipe zoologique et botanique où eux, ils sont passionnés par les animaux. Ils aiment que le parc, au niveau esthétique, soit joli. Mais il y a tout le personnel de maintenance ou le personnel des événements ou du pédagogique, donc plus qui sont plus en retrait par rapport aux visiteurs et à qui on pense peut-être moins quand on parle de Peridaisa. Mais ils sont vraiment tous super passionnés par leur métier. Ils sont fiers de travailler pour le parc et ils sont vraiment taillables et corvéables à merci pour que le visiteur soit content, pour que le parc soit beau. Et je sens cette passion et l'amour pour notre jardin des mondes. Et donc, cette culture est très positive et ça, c'est quand même très, très gai.
Est-ce que tous les employés se réunissent régulièrement ? Est-ce que tu rencontres les soigneurs, etc., du parc ?
Ben, bon, évidemment, moi, j'estime être une privilégiée. Donc, en tant que directeur financier, si je veux aller visiter ou rencontrer des gens de la maintenance pour comprendre les dépenses, pour comprendre ce qu'ils font, si je veux aller voir les soigneurs, j'ai déjà eu l'expérience d'ailleurs d'aller les voir pour tout ce qui était animaux marins, parce qu'il y avait quand même des dépenses importantes et donc je voulais comprendre ce qu'il en est ou comprendre aussi le nombre de soigneurs pour certains animaux qu'il faut nourrir à la becquetée et pas simplement déposer la nourriture dans les enclos. Donc, j'ai l'opportunité d'aller dans tous les domaines du parc et de rencontrer les gens dans le cadre du contrôle financier et du rôle de directeur financier. Mais régulièrement, il y a des petits événements au sein du parc, pas plus tard qu'hier d'ailleurs, pour lancer la saison de l'été, qui est une saison assez intense pour nous. Donc là, on se réunit un peu et il y a un petit mot de bienvenue, il y a des encouragements qui sont faits, il y a un petit drink et c'est l'occasion de pouvoir parler avec un peu tout le monde.
Et dans ce que tu dis, ce que j'entends, c'est qu'il y a vraiment une importance de l'humain. On sent que finalement, il n'y a pas que des chiffres, il y a aussi des êtres humains derrière tout ça.
C'est sûr que l'humain, chez Peridaisa, c'est certainement le cas. Je pense que dans beaucoup d'entreprises, c'est le cas, mais l'humain, c'est hyper important. Sans l'humain, quelque part, on ne va nulle part, je pense.
Mais c'est en fait ce que notre CEO Hugues nous dit régulièrement. D'ailleurs, on a enregistré un podcast il n'y a pas si longtemps avec Hugues. Et c'est exactement ce qu'il nous dit. Par ailleurs, j'aimerais maintenant passer peut-être à d'autres questions relatives à Peridaisa. Est-ce que tu peux me parler de comment vous intégrez les considérations environnementales et sociales dans votre gestion financière?
Bien, ce que je peux dire, c'est que je pense que ce sont des considérations qui, pour la direction de la société, sont très importantes. Je pense qu'on a un objectif d'être neutre carbone en 2030. Je suppose que vous n'êtes pas sans savoir qu'on a construit un parking avec des panneaux photovoltaïques très importants. On est en train de construire une deuxième phase afin de vraiment produire l'électricité dont le parc a besoin. On a aussi construit une station d'épuration. C'est vraiment une station à taille d'une ville, à la taille d'une ville, parce que Peridaisa, c'est une ville. Et donc, on veut vraiment traiter les eaux usées avant de les remettre dans la nature. Donc, je pense que c'est vraiment une considération très importante et on n'hésitera pas à faire des investissements un peu plus coûteux afin de permettre justement d'être neutre carbone. Et donc, je pense notamment aux panneaux photovoltaïques, mais aussi à des pompes à chaleur qu'on est en train de mettre dans les nouveaux mondes qu'on construit ou dans le parc actuel. Et donc, on remplace toujours les chaudières ou les toitures avec un impact positif sur l'environnement, donc plus performante ou bien mieux isoler les toitures. Donc, quitte à ce que ça coûte un peu plus cher, mais on veut vraiment être neutre carbone aux environs de 2030.
Et c'est tout à votre honneur. Quels sont les indicateurs clés que vous surveillez chez Peridaisa, donc toi en tant que directrice financière?
J'ai une petite anecdote, c'est que avant, la météo, c'est toujours important pour l'humeur et on veut quand même toujours un peu savoir. Mais je peux vous dire que là, en tant que directeur financière de Peridaisa, je regarde les prévisions météo quasiment tous les jours, parce qu'en fait, c'est vraiment quelque chose qui va impacter la fréquentation du parc. Et donc, il ne faut surtout pas qu'il pleuve. Donc, on est un peu comme les agriculteurs, pas de pluie et pas trop chaud, parce que la pluie, forcément, il y a beaucoup en extérieur, donc la fréquentation diminue. Et quand il fait trop chaud, donc si on fait 30 degrés, il y a moins de fréquentation également. Donc, il faut vraiment, comme aujourd'hui, un petit soleil, 20-22 degrés et pas de pluie. Donc ça, c'est déjà une des choses, et c'est un peu anecdotique, mais ça va vraiment influencer les chiffres, en fait, et les chiffres de fréquentation notamment. Alors, tous les jours, on regardera quel nombre de visiteurs on a fait, et on regardera également la dépense par visiteur, pour savoir si l'élasticité du prix est bonne, pour savoir si l'offre proposée au niveau Horeca ou dans les boutiques est bonne, donc ça, c'est un indicateur qu'on regarde. Et alors aussi, quelque chose où on est très, très attentif, peut-être pas spécialement moi en tant que directeur financier, bien que j'écoute les échos, c'est qu'on regarde, on a une gestion et on regarde toutes les plaintes, donc les commentaires d'amélioration. Parfois, c'est des plaintes, mais parfois, c'est plutôt des améliorations constructives de nos visiteurs pour essayer d'y répondre et d'envisager ce qu'ils nous demandent. Et on regarde aussi pour nous motiver et nous garder positifs, les expériences positives. Donc, on a aussi pas mal de retours des visiteurs qui disent qu'ils ont passé une expérience très chouette dans le parc et ils expriment ce qu'ils aiment dans le parc. Donc, ça, c'est aussi positif parce que ça nous donne des indicateurs sur qu'est-ce que les gens aiment dans le parc, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas et pouvoir ainsi adresser ça.
Donc, vous étiez à l'écoute du public et c'est quelque chose que vous prenez en compte dans le cadre des nouveaux aménagements du parc ou pas forcément ?
Là, je pense que globalement, les visiteurs du parc, ils aiment le Jardin des Montes parce qu'ils aiment les animaux, mais aussi il y a une dimension culturelle dans le parc. Donc, on voyage quand on vient au parc. Hein, donc, comme vous l'avez dit dans l'introduction, on peut faire le tour du monde en faisant le tour du parc. Et donc, je pense que le parc, il est très, très bien décoré au niveau botanique, au niveau de tout ce qui est pierre, décoration. Et donc, on peut faire une visite, on peut faire plusieurs visites dans le parc. Hein. On peut venir pour les animaux, mais on peut venir pour regarder tout ce qui est botanique ou pour toutes ces fameuses pierres et décorations et tous les rituels des différents pays. Donc ça, c'est exprimé dans le parc. Donc ça, je pense que c'est pour ça que nos visiteurs viennent. Et donc, quand on crée des nouveaux mondes ou des nouvelles attractions, eh bien, on continue à alimenter ça.
Et qui est-ce qui donne l'impulsion de tous ces nouveaux projets ?
Alors, je pense que clairement, on peut dire que c'est le papa du parc, le fondateur Éric Dombes. C'est un homme qui a énormément voyagé. Il a vu des choses extraordinaires au cours de ses voyages. Je pense que c'est quelqu'un qui aime énormément l'esthétique et la beauté des choses. Et donc, ça, je pense que les impulsions viennent vraiment de lui. Après, ben, il est entouré par une équipe de tant d'architectes que de personnes, directeurs de projets qui sont capables de construire ce qu'il a imaginé, mais aussi d'autres personnes dans la direction avec qui il échange et qui, tous ensemble, permettent d'arriver et de mettre en place les idées qu'il a pu amener.
Et toi, en tant que CFO, quelle est ta relation finalement avec le CEO ? Est-ce que vous êtes, est-ce que tu es dans la confidence ? Est-ce que vous avez un échange journalier ? Comment ça se passe ?
Ben, je dirais que je rebondis un peu sur ce qu'on a dit précédemment. Le fait d'être dans une petite structure, eh bien, l'accès évidemment à la direction dont je fais partie, mais également au patron, hein, qui est l'actionnaire, Eric, ben, c'est toutes les semaines ou c'est parfois tous les jours, mais c'est très accessible. C'est pas du tout le cas dans une grande structure. Là, il y a tellement de hiérarchie entre eux qu'on parle pas tous les jours au PDG de la boîte. Ici, si je veux, je peux parler tous les jours à Éric Dombes.
Bien sûr. Il y a une question que je ne t'ai pas posée, que j'aimerais quand même te poser. C'est quoi la journée type d'une CFO de Peridaïsa ? Tu peux nous raconter un peu qu'est-ce qui se passe en 8 heures de travail ?
Alors, je pense qu'il se passe beaucoup de choses. C'est certainement le cas chez Peridaïsa, mais c'était déjà un peu le cas dans mon job précédent. Et donc, comme j'ai une équipe de 12 personnes et que c'est déjà beaucoup à gérer, donc souvent, j'ai une heure de réunion par semaine avec chacun, donc ça fait déjà 12 heures. Et après, ben, je n'ai pas que mes collègues avec qui je prends plaisir d'interagir, mais je pose toute une série de questions à plein de gens dans l'organisation, que ce soit au niveau botanique, au niveau maintenance, au niveau des achats, toujours en relation, bien sûr, avec les chiffres. Hein, je vais poser des questions qui m'intéressent. J'ai aussi des contacts avec des gens, par exemple, de la billetterie et pas plus tard qu'avant-hier, je suis allée voir comment se passait la procédure de caution à la billetterie quand on loue un chariot ou une chaise pour mobilité réduite. Et donc, vraiment, c'est très large, mais donc, c'est plutôt une journée marathon. J'ai vraiment des réunions qui s'enchaînent et donc, il n'est pas question que je prenne du retard parce que sinon, je n'ai pas beaucoup de petits buffers. Mais c'est ça que j'aime. Dans le métier, c'est la diversité qu'offre le métier de directeur financier et les contacts humains, en fait, parce que je suis rarement seule dans mon bureau à travailler toute seule sur un dossier.
Ok, très bien. Est-ce que tu peux nous parler de ta vision en tant que manager d'équipe ? Donc, tu as parlé du fait qu'en tant que CFO, forcément, tu gères une équipe. Mm-hmm. Je pense que c'est un sujet qui te tient à cœur.
Oui.
Raconte-nous un peu ta vision, comment ça se passe. Dis-nous tout.
Alors, c'est effectivement une partie du rôle que j'aime beaucoup. Et pour moi, ce que je souhaite, c'est faire grandir les gens, donc leur apporter des compétences, les faire grandir. Et donc, ce ne sera pas toujours spécialement pour faire des copier-coller de ma personnalité ou de ma vision, mais c'est vraiment essayer de comprendre qu'est-ce qui motive la personne. Et donc, dans un environnement financier, ben, il y a principalement des comptables et il y en a qui aiment l'expertise technique comptable, mais il y en a d'autres qui aiment les systèmes, qui aiment l'analyse. Et donc, il faut un petit peu essayer de comprendre ce que la personne aime, et alors, pour essayer de la développer, de la faire progresser là-dedans. Et alors, quelque chose qu'un ancien chef m'a appris, et que j'essaye toujours d'appliquer, c'est que même si on développe quelqu'un et qu'elle devient vraiment sous plein d'aspects, que ce soit technique, que ce soit humain, que ce soit managérial ou d'organisation, que ça devient vraiment, vraiment quelqu'un de très bien, ben, il ne faut pas la garder pour soi. Donc, si cette personne, à un moment donné, a bien évolué au niveau du département financier, mais que son rêve, c'est de partir à la communication ou d'aller en ressources humaines ou autres, ben, je trouve qu'un bon manager va laisser cette personne partir pour encore pouvoir se développer et faire le métier ou accomplir un rêve.
Tout à fait, qu'elle puisse s'épanouir. Est-ce qu'on peut quand même savoir quels sont les projets à venir pour Paradisa? Je ne sais pas si tu as voilà, des petites choses à nous annoncer, des
oui,
petites choses secrètes ou pas ou...
Je pense que c'est pas un secret, ça a déjà été évoqué dans la presse par Eric, mais un aspect qui est super intéressant au parc, c'est que ça bouge tout le temps, il y a toujours plein d'idées et des nouveaux projets en cours. Et tous ceux qui viennent à Paradisa aujourd'hui voient qu'il y a une serre tropicale géante qui est en cours de construction. Donc, ce sera vraiment une serre de 4 hectares, donc c'est gigantesque, qui a été construite également, ça je tiens à le souligner, par des constructeurs et des fournisseurs belges. Donc, ça, il y a beaucoup de fournisseurs belges qui travaillent pour le parc. Et cette serre va abriter différentes zones, donc sera principalement axé sur l'Amazonie et tout ce qui est forêt tropicale. Mais donc, il y aura beaucoup de nouveaux animaux. On aura des grands, grands aquariums avec des animaux marins. Donc, il y aura des lamantins, il y aura des crocodiles, il y aura des requins, énormément de poissons, beaucoup d'oiseaux dans la serre et c'est à l'étude encore, mais sans doute une serre à papillons. Des perroquets, donc ce sera, il y aura des singes, donc beaucoup, beaucoup d'individus à pouvoir observer. Et dans cette serre, il y aura également un restaurant assez grand qui aura vue sur ce aquatique, sur les aquariums. Et il y aura aussi un hôtel qui pourra vraiment profiter de cet environnement tropical, en fait.
Et donc, 4 hectares, c'est pas mal pour les jours de pluie, si
Exactement.
Je ne m'abuse.
Exactement.
Très bien. Et bien Julie, on arrive déjà aux dernières questions de l'épisode. Donc, comme tu le sais, à chaque épisode, les mêmes questions. La première, donc, c'est qui considères-tu comme le mentor de ton histoire?
Alors, je pense que j'ai été très chanceuse dans ma carrière et que j'ai rencontré 4-5 personnes qui m'ont vraiment appris beaucoup de choses. Si je devais choisir, je prendrais mon dernier chef, donc c'est Gérard Marquet, qui était mon chef chez Doc Horning, et qui, lui, m'a vraiment appris ou qui m'a aidé à forger mon opinion et ma vision sur la gestion d'équipe. Et également sur l'importance de l'efficacité opérationnelle dans une société en tant que directeur financier. Parce que ben, le département finance, ça représente un coût pour une entreprise. Hein, et je pense qu'il faut essayer d'être aussi efficace que possible. Parce que la finance, ben, c'est incontournable. Hein, y a toutes des obligations légales qu'on doit remplir et tenir une comptabilité, payer les salaires, payer les fournisseurs. Donc, c'est un mal nécessaire, il faut un département financier, mais je pense que c'est un département financier qui doit être efficace. Donc ça, c'est vraiment deux pans, l'aspect managérial et l'aspect efficience opérationnelle qu'il m'a inculqué. Et voilà, on a eu l'occasion de travailler pendant 10 ans ensemble et c'est vraiment ce que j'ai retenu de mon parcours avec lui. Et aujourd'hui, il a un peu plus de 70 ans et je le vois toujours en fait.
Et on le salue, bien sûr. Est-ce que tu as une potion magique ou une botte secrète, Julie?
Alors, je dirais que ma potion magique, d'un point de vue professionnel, c'est mon équipe. Et donc, on l'a dit tout à l'heure, je pense vraiment que sans l'humain, on ne va nulle part. Et les voir progresser, les voir enthousiastes et surtout venir avec des idées parce que je les ai un peu challengées, je trouve ça super chouette. Et donc, vraiment, ça, c'est une force. Et si je dois dire ma botte secrète d'un point de vue privé, ben, je dirais d'abord que c'est ma famille, Donc, j'ai un mari qui est DRH et on a eu l'occasion de travailler ensemble chez Doc Horning. Et donc, ben, je pense que nos interactions sont très bonnes et nous permettent l'un à l'autre de relativiser et d'envisager parfois les choses de manière différente. Alors, je suis aussi la maman d'une famille recomposée de 6 enfants. Donc, je pense que ça bouge beaucoup chez Peridaisa, mais ça bouge beaucoup aussi à la maison. Et donc, voilà, ça, c'est vraiment quelque chose qui permet de me couper du boulot quand c'est nécessaire, parce que de toute manière, c'est presque obligé avec 6 grands enfants de passer à autre chose quand on rentre à la maison. Et alors, quand je dirais parfois il y a des moments plus stressants, quelque chose qui me fait vraiment du bien, c'est de la course à pied. C'est vraiment quelque chose que j'ai découvert il y a 10 d'années. Et pour moi, c'est de la course méditative. Mais ça me permet vraiment de me vider la tête et de me poser. Voilà, ça c'est...
Je pense que c'est le sport préféré de tous les CFO qu'on rencontre sur ce podcast, mais c'est super. C'est évidemment, il faut courir, il faut faire du sport. Julie, quelle est la morale de ton histoire? C'est la toute dernière question, je t'en prie.
Ben, je dirais que la morale de mon histoire, c'est que j'ai vraiment jusqu'à maintenant eu beaucoup de chance dans mon parcours professionnel, tant au niveau des types de sociétés que j'ai rencontrées, mais aussi la multitude des différentes personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, parce que c'était vraiment des grandes personnes. Ce que je pense, c'est que je suis vraiment dans un métier qui me plaît. Donc, je suis à la bonne place. Je suis une locomotive, je suis enthousiaste, j'ai toujours beaucoup d'idées, je veux toujours qu'on s'améliore. Donc voilà, je me décourage rarement et je pense que c'est vraiment quelque chose qui me convient.
Je te remercie Julie d'avoir été là aujourd'hui et je te dis à bientôt et beaucoup de succès dans ton travail de CFO.
Merci beaucoup.
Once Upon a Business est une production Emasphère, solution SaaS d'analyse et de prévision pour financiers. Pour nous aider à faire grandir le podcast et continuer d'inviter des profils inspirants, laissez une note 5 étoiles et un commentaire sympa sur votre plateforme d'écoute et suivez-nous sur LinkedIn pour ne rien manquer de nos contenus inédits.